micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble. Alors aujourd'hui, autour de la table de ce plateau micro-ondes, on a des personnes qui travaillent avec des enfants, donc elles vous expliqueront de différentes façons dans différentes institutions, établissements. Mais voilà, ce qu'elles ont toutes partagé, c'était de vivre le confinement, hein, comme tout le monde, le télétravail, et de voir du coup les conséquences que ça avait sur leurs conditions de travail, comme sur les enfants qui sont accueillis habituellement. Et on va aussi discuter de cette reprise, dans quelles conditions elle se fait, et de qu'est-ce que ça crée pour tout le monde, et qu'est-ce qu'on peut aussi craindre que ça entraîne pour la suite des événements. Alors, je vais passer la parole à nos invités qui vont se présenter.
Alors, salut, moi je m'appelle Samia. Je travaille comme AED dans un lycée, un énorme lycée qui compte à peu près 1200 élèves et dans lequel il y a plein de branches qui sont mélangées. Donc il y a des bacs pro, il y a des bacs général, il y a même des troisièmes et des BTS. Donc ça a une large fourchette d'âge et de spécialité. Voilà. Alors AED, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben je sais pas. Ça veut dire aide assistante d'éducation, mais le D, je sais pas. Je crois que c'est D comme pionne, c'est-à-dire que on nous prend la tête pour nous faire faire ce qu'on veut, voilà.
Alors moi c'est Henriette et je travaille comme animatrice auprès des enfants les mercredis et les vacances scolaires dans des centres de loisirs classiques quoi.
Salut, moi c'est Charlotte, je travaille en collège, je suis professeure dans un collège de la vallée du Grésivaudan.
Salut, Non, c'est Belen. Je travaille aussi dans un collège comme enseignante. J'ai des classes qui vont de la 5e à la 3e dans deux établissements de l'Académie de Grenoble. Et oui, mon statut c'est contractuel. Je ne suis pas titulaire, donc j'ai mon temps de travail divisé entre deux établissements assez séparés en distance.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est mis en place le confinement et quelles conséquences ça a eu du coup sur votre travail? Voilà, comment ça s'est passé tout ça?
Donc Charlotte, moi de l'endroit où j'étais, moi j'ai trouvé que ça allait très vite. On a été très vite tenus de poursuivre les cours. Hein. On a entendu très vite parler des questions de continuité pédagogique. Et ça, dans les conditions qui étaient les nôtres chez soi, c'est-à-dire qui étaient quand même hyper différentes. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas de matériel, parce que je pars travailler tôt le matin pour être dans mon établissement, parce que l'éducation nationale, quand même, ne fournit pas de matériel en dehors des bahuts, quoi. Et ben voilà, moi ça m'a valu des maux de dos assez rapidement, quoi, je dirais au bout d'une semaine. Et par ailleurs, j'étais mandatée par mon organisation syndicale pour discuter avec le directeur des ressources humaines sur justement quels seraient nos droits avant que le confinement commence, le lundi, je crois que c'était lundi 16 mars. Et ça a été assez inquiétant parce qu'il a commencé par dire que comme on était chez nous à travailler, il n'y avait pas, enfin le droit du travail, quoi, ne s'appliquait pas. Donc on a pu un peu rectifier le tir, mais voilà dans quelles conditions on a été balancé chez nous.
Alors pour moi, Samia, le télétravail, en fait, il y a eu les vacances, après il y a eu une semaine de travail, et en fait moi j'étais malade à ce moment-là, du coup je suis pas allée, et du coup c'était très bizarre en fait qu'on m'appelle ensuite pour me dire bon c'est pas la peine de revenir, finalement c'est télétravail. Et en quoi ça allait consister? Ça a mis à peu près une semaine à se mettre en place. Chez nous, enfin là où je travaille, ça allait, on nous a pas mis la pression en mode vous êtes obligé de télétravailler. On savait que c'était plutôt sur la base du volontariat. Et par contre, on n'avait aucun matos fourni non plus. Du coup, pas d'ordinateur. Du coup, le logiciel avec lequel on est censé suivre les élèves, on ne l'avait pas forcément. On a reçu un mail de la directrice qui nous disait « Il faut faire comme ça. Vous êtes censé appeler les élèves, toutes les classes dont vous êtes référent, toutes les semaines. » Et les inciter à travailler. Il y avait elle nous avait fait tout un protocole de comment il fallait faire que j'ai pas en tête parce que je l'ai pas suivi. Et voilà, du coup, on n'avait pas le logiciel pour suivre les élèves. Et en fait, ce logiciel, il devait nous permettre de voir qui travaille pas, qui rend les trucs et tout ça. Donc moi, je ne savais pas. Et du coup, ben, tant mieux. et du coup, on n'avait pas non plus de téléphone qui nous était fourni. Du coup, c'était notre connexion Internet, notre téléphone, nos ordinateurs personnels pour faire le télétravail. Et en fait, ben, on nous incitait à appeler en masqué, appeler les élèves en masqué, en numéro masqué, pour avoir des nouvelles. Et bah du coup on les appelait en masqué et puis du coup ben bah, ils répondaient pas. Voilà.
Donc Henriette, moi le télétravail ça a été aussi ben deux semaines de flou, pareil avec les outils personnels, en train de se dire que bah finalement heureusement qu'on maîtrisait quand même un minimum des outils divers et variés qui faisaient qu'on arrivait quand même à installer des trucs pour continuer à communiquer ensemble. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé que pendant toute la période du confinement, le télétravail, à des moments, je me demandais à quoi ça ressemblait. J'avais plus rien à faire. Alors moi, j'ai pas eu droit à recevoir des enfants en dématérialisé ou leur faire des animations en dématérialisé. Mais au bout d'un moment, l'ennui, on n'est pas dirigé, on sait pas quoi faire. Tout le travail qu'on a pu avoir en retard est fini. Alors moi, j'ai eu ce grand moment de bonheur d'avoir le droit d'avoir un ordinateur du travail, vu que le mien était très désagréable et faisait un bruit de mer. Alors pour tout ce qui était réunion Skype, les autres participants trouvaient ça gênant d'avoir la mer en fond. Donc on m'a gentiment donné un ordinateur du travail. Où dessus il n'y avait rien installé et voilà, du coup c'était aussi c'était tout aussi pratique finalement. Il y avait Word hein. Donc j'ai fait Word mais j'avais rien à faire dessus. Voilà, après moi c'est vrai que j'ai fait la garde pendant les mercredis et vacances scolaires des enfants de personnel soignant, donc à des moments on pouvait se déplacer deux personnes rien que pour un enfant. Un des deux parents était personnel soignant, mais qui ce jour-là était, le parent était en télétravail, mais avait quand même envie que son enfant aille à l'accueil de loisirs. Donc moi j'ai trouvé ça complètement aberrant de faire déplacer deux personnes pendant le confinement pour garder un enfant dont un des deux parents était en télétravail. Voilà, c'était assez glorieux. Et des fois se demander aussi pourquoi ce service minimum très peu investi n'était pas ouvert plus largement à d'autres enfants qui en pourraient en avoir besoin, parce que quitte à être là, autant en prendre 12 plutôt que 1. Ce qui a été accepté après sur les vacances scolaires, on a pu accueillir d'autres enfants en lien avec les assistantes sociales, des enfants qui avaient besoin de partir de chez eux, quoi, et qui faisaient des plus gros groupes et plus intéressants pour faire de l'animation, quoi.
Oui, Belen, j'ai vécu les premières semaines de confinement, de télétravail d'une façon très... j'étais très angoissée, en fait, déjà du fait de ne pas pouvoir sortir. Et de toutes les informations qu'on recevait, j'avais en plus 12 établissements, donc je recevais tout en double avec des quelques jours de décalage. On nous disait une chose, le contraire le lendemain. C'était vraiment super anxiogène. Les outils ne marchaient pas, parce que moi, je suis très informatisée, mais malgré mon super ordinateur, ma super connexion fibre optique, les outils de collège ne marchaient pas, parce que tout était saturé, c'était pas prêt pour faire ça, en fait. Donc c'était super dur, les premières plus. Je suis mère célibataire avec mon petit enfant à côté, en faisant aussi lui son école à la maison. Donc c'était les deux premières semaines, j'ai pensé que j'allais devenir folle et que j'allais finir à s'intégrer tranquillement, en fait. Et après, ça s'est calmé, ça s'est mis un peu en place. Mais aussi, ce que j'ai senti les deux premières semaines, c'est qu'il n'y avait plus de sens à ma pratique comme enseignante, en fait. Je ne suis plus en contact avec les élèves. Je suis dans un collège, on va dire, des quartiers. Et j'ai perdu, bien sûr, c'est un collège qui a un mélange socio-économique et socio-culturel super intéressante. Et bien sûr, on avait perdu ce qu'on savait qu'on allait perdre, tout de suite. Une semaine après, ils n'étaient plus là. Moi, j'ai refusé de faire des classes virtuelles. Parce que c'est aussi, pour moi, c'était un autre moyen de discrimination. Sincèrement, je pensais, parce qu'il allait se connecter simplement une certaine partie à les autres élèves qui partageaient à 5 ou à 7 l'ordinateur pour faire ces classes, ils ne pouvaient pas venir. Donc j'essayais de laisser beaucoup de temps à faire, pour faire les choses, essayer de rappeler les élèves. J'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient très bons en physique, chimie, mais ils avaient complètement décroché parce qu'ils n'avaient pas le temps. Donc j'essayais d'envoyer des petits messages. Mais t'aimais bien ça, tu te rappelles. Regarde la petite vidéo, tu peux voir l'expérience. Mais c'est sincèrement, pour moi, ça avait perdu beaucoup de sens, en fait. Parce que pour moi, l'enseignement, c'est devant l'élève. Donc pour moi, je ne trouvais pas le sens. J'ai réussi à retrouver un lien avec mes élèves, mais ça a pris du temps. Et là, bien sûr, à 4 semaines de la fin des vacances, on l'a reperdu. Hein.
Et ouais, du coup, ça a beaucoup été discuté, la continuité pédagogique, son sens, les inégalités que ça crée. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a un peu expliqué c'était quoi l'intérêt de cette continuité pédagogique? Est-ce que c'était des choses qui étaient discutées dans les équipes? À votre avis, ça servait à quoi? Est-ce que c'était vraiment utile ou est-ce qu'au contraire, ça pouvait être plutôt nuisible? C'est quoi un peu votre regard là-dessus?
Ouais, pour moi, la continuité pédagogique, c'était clairement faire en sorte que les travailleurs continuent de travailler, quoi, d'une manière ou d'une autre, et finalement un peu peu importe, parce que moi, je suis d'accord, hein, j'ai pas eu personnellement de soucis à mettre en place enfin, me servir des espaces d'échange là avec les élèves, mais par contre, c'est clair que la question du sens du travail, elle a été ça a été heurté très vite. Et moi, il m'a semblé aussi cette question de la continuité pédagogique, du point de vue des élèves, c'est quand même aussi un moyen, en fait, de contourner les vraies questions, qui sont qu'on a des enfants qui sont plus accueillis à la cantine, qui sont chez eux, et avec tout ce que ça représente d'inégalité, de difficulté, enfin voilà, enfin ils sont pas du tout c'est très différent, quoi, d'un enfant à l'autre. Et en fait, du coup, cette continuité pédagogique, j'ai l'impression que c'est comme un petit mouchoir qui permet de pas parler aussi des choses qui nous animent, en fait, parce que de voir enfin, moi, par exemple, j'ai l'impression que mon quotidien, c'est quand même de croiser des enfants, d'en discuter avec les collègues que je croise en informel. Et puis, il émane des situations dont on va parler après à d'autres adultes et tout ça. En fait, on est quand même... je crois qu'on essaie de veiller un minimum à notre échelle aux jeunes. Et en fait, à distance, ça, tu ne le fais pas, quoi. Et donc aussi, ce truc de continuité pédagogique, c'est aussi bien nous rappeler ce vers quoi on tend, c'est-à-dire les neurosciences, la sélection dès le plus jeune âge. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, non, ça a été assez violent à cet égard, pour moi.
Donc oui, ça, on reviendra dessus tout à l'heure, en effet, de quoi ça laisse... qu'est-ce que ça nous laisse voir sur les directions que ça peut prendre au niveau de comment on traite les enfants dans notre société. Mais peut-être justement, une question plus pour toi, Samia, sur... toi, tu as eu ce boulot d'essayer de garder le contact avec les élèves aussi, pour voir comment ils allaient. Alors, pour ceux qui t'ont répondu malgré le numéro inconnu, est-ce que tu as l'impression que cet espace de discussion téléphonique, pendant que les élèves sont chez eux aussi, ça a permis à certains d'être un espace d'écoute, en fait, qu'ils pouvaient trouver, ou...
Alors du coup, ouais, en effet, comme je disais tout à l'heure, on avait des directives sur comment avoir des entretiens avec les élèves et comment les inciter, en fait, à travailler ce genre de choses, parce que le but, c'était ça, c'est qu'ils continuent à travailler de toute façon. Mais en fait, dans la teneur des entretiens téléphoniques que j'avais avec les élèves, énormément, ils étaient aussi des personnes qui étaient angoissées face à la situation aussi, qui avaient des contextes familiales pas forcément évidents, comme tu disais tout à l'heure, Bélène, très inégaux. En fait, j'avais 5 classes dont j'étais référente, 3 de générale et 2 de lycée pro, donc des filières pro, quoi. Et déjà, à la base, dans ces filières, dans les différentes filières, on voit très clairement les inégalités de classe. Enfin, c'est criant, quoi. Les filières générales, ils avaient du matériel informatique, parfois individuel, et ça allait bien. Quand ils sont en cours, on les voit, ils sont griffés de la tête aux pieds, quoi. Ils ont que des habits de marque. À côté de ça, les lycées pro, ils ont des fringues trouées, des fringues pourries et tout ça. Et à la maison, ils n'avaient pas forcément de matériel, pas de connexion ou pas de jardin aussi, pour pouvoir se changer les idées pendant le confinement. Et donc, en fait, très vite, la teneur des entretiens, c'est ben ouais, non, je suis pas motivée. Ouais, non, les cours virtuels, non. et comme tu disais, Bélène, en fait, très vite, ceux qu'on devait perdre, on les a perdus direct. Et en fait, la continuité pédagogique là-dedans, je ne voyais pas trop, quoi. Et en plus de ça, enfin, je trouve les élèves déjà, en fait, je trouve que c'est des jeunes qui sont pas c'est pas forcément évident de parler avec eux. En fait, quand tu parles avec eux, quand tu les vois, quand tu vois leur regard, en fait, t'as l'impression que ils ont déjà tout vu, déjà tout vécu, que en fait, ils vivent dans une société très anxiogène à la base, et que en fait, ils ont déjà bien compris que en fait, c'est quoi l'espoir pour l'avenir. Ils ont déjà intégré ça. Et en fait, du coup, quand c'est par téléphone qu'il faut que tu discutes avec eux et que tu essayes de... Bah, moi, du coup, je voulais pas avoir ce rôle de flicage sur le travail. Je voulais aussi avoir leur offrir une autre interaction avec, avec l'institution. Et en fait, c'est encore moins facile de discuter avec eux. En fait, on discute pas avec eux. Juste, ils expédient la conversation, quoi. Et du coup, la continuité pédagogique, walou, quoi. Et ouais, les cours virtuels, entre ceux qui ont des problèmes de connexion et puis ceux qui décrochent de toute façon, c'était très peu de monde au final qui continuait, enfin qui s'accrochait, quoi.
Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Charlotte, qu'une importance aussi des relations d'équipe, en fait, dans la continuité pédagogique, que forcément, le télétravail a cassé, et que même si chaque équipe a essayé de trouver ses moyens pour qu'on continue à communiquer, c'était aussi pas les mêmes temporalités. Et moi, je l'ai vu, avec... on est une équipe de 4, 5, et sur les 5, 3 qui faisaient l'école à la maison, alors pas forcément disponibles. Il y en a, c'était pas le matin, d'autres pas l'après-midi. Et puis 2, totalement disponibles. Et on n'était absolument pas sur les mêmes temporalités. Et du coup, de se retrouver après confinement, il faut encore reconstruire tout ça pour derrière arriver à accueillir les enfants dans des conditions correctes. Et en ayant bien vu aussi que c'est plus aussi fluide, et que justement d'être tout seul derrière son ordinateur, des fois t'as l'impression que t'es plus efficace, puis en fait tu te perds. Pour moi, le travail d'équipe, c'est là où on ressortira les choses les plus fortes pour mieux accueillir les enfants. Et que on est passé de peut-être le confinement il va durer 2 semaines, peut-être 3 semaines, et puis il y aura ces protocoles quand on va réouvrir, et puis là, et en fait à chacun faire des plans dans sa tête, et puis jamais avoir le temps de se dire alors on met tous nos plans sur la table et on en discute vraiment de comment on pourrait derrière réaccueillir ces enfants, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait réinventer. Ton ordinateur il répond pas, donc tu lui poses plein de questions puis il répond pas. Et moi j'ai trouvé ça vraiment dur, quoi, d'être seule.
Et ouais, pour ajouter un truc aussi, il y avait cet aspect que on avait des directives, tout ça, mais en même temps, on n'avait pas forcément les logiciels pour faire le suivi des élèves, tout ça. Et du coup, en fait, c'était très cafouillage aussi à mettre en place comment on fait les choses. Et en fait, on attendait des retours des CPE ou des profs pour dire ce serait bien d'encourager tel élève ou quoi. Et en fait, on n'avait aucun retour aussi. Du coup, c'était très, très cafouillage tout ça aussi.
Pour revenir à la question qui était posée au début, si la continuité pédagogique elle était expliquée, non. Moi, personne m'a expliqué qu'est-ce que c'était la continuité pédagogique, sauf envoyer des cours aux horaires qu'il fallait envoyer des cours. Mais il n'y avait pas un objectif, il n'y avait pas une directive, et à la fois, il y avait plusieurs directives, en fait. Et maintenant que je me rends compte, j'ai eu aucune interaction avec les AED. Mais je me viens de rendre compte maintenant que j'ai aucune... On a échangé entre profs, on a échangé un peu avec la direction, mais avec les AED, j'ai eu aucune communication, donc je ne savais même pas qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait, par exemple. Et je sais que les profs, presque dans tous les deux établissements que je travaille, plus des autres que j'ai eu entendu des choses, les profs principaux, ils ont eu aussi le travail d'appeler au moins une fois par semaine les élèves, pour essayer de les motiver, pour voir comment ils allaient, pour... Et je pense que, je ne sais pas si mes collègues, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait les AED pendant les temps de confinement.
Et il y a aussi un aspect du télétravail qui a été pas mal questionné, c'est au niveau du nombre d'heures, et c'est quand la coupure entre le moment où on travaille et le moment où on ne travaille plus, aussi avec les difficultés, comme tu disais, Bélène, quand en plus on est en télétravail avec un enfant à la maison parce qu'il n'a pas école, comment on gère tout ça, pas mal de retours de grandes disparités qu'on entre aussi la capacité de disponibilité au travail entre les hommes et les femmes, dans le cas notamment de couples hétérosexuels qui, sans surprise, a bien été présente. Voilà, est-ce que vous voulez nous dire des choses sur ce sujet ?
Bon, comme tu dis, le télétravail avec un enfant à la maison, c'est très très compliqué. Et je ne te dis pas les conseils des classes, les réunions virtuelles avec un enfant qui doit conjuguer ses verbes à côté. Hein. C'était très très compliqué. J'ai coupé le microphone. Mais c'est... Premier groupe, tu te rappelles ? Donc c'était très 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 compliqué. En plus, je me suis découverte très mauvaise maîtresse d'école. La physique chimie, ça va, mais oh, punaise, sincèrement, et avec son enfant, c'est encore plus difficile. Dans un petit appartement, sans jardin, heureusement, on a un balcon, donc on pouvait sortir au balcon pour changer les idées. Mais... Et après la coupure, c'est... j'ai travaillé beaucoup plus que jamais de ma vie, en fait. Et j'en ai travaillé, en fait. Et là, j'ai travaillé... Et comme je suis insomniaque, je me suis trouvée à corriger des copies à 3h du matin, par exemple. Parce que t'es réveillée, tu peux plus dormir, et tu fais quoi ? Ton ordinateur, tu corriges des copies, tant qu'à faire. Ou envoyer des cours, répondre des mails. Ça m'est arrivé aussi de... T'es complètement envahie, en fait. Je me sentais complètement envahie dans ma vie personnelle, en fait. J'ai coupé l'après-midi de mercredi, par exemple, pour passer l'après-midi avec mon fils, faire des jeux avec lui, faire des gâteaux, essayer de faire un peu plus ludique cette confinement. Et je me trouvais avec 50 mails les soirs quand je me reconnectais. Donc c'était très, très invasif. Des mails de ses élèves qui posaient des questions sur l'activité que tu avais envoyée, des mails des profs qui disaient que tel hôtel avait décroché, qu'il fallait appeler tel hôtel, des gentils messages du ministre en nous encourageant avec notre continuité pédagogique, avec des jolies vidéos.
Donc, ramasser des fraises.
Oui. Ah oui, on s'envoyait ramasser des fraises aussi, oui, vu qu'on ne faisait rien. Donc c'était très, très invasif au niveau... C'est encore, en fait. C'est l'est encore, parce qu'on est encore en mixte. C'est encore très invasif au niveau personnel, en fait. Y a plus, moi, je ne trouvais plus la limite, en fait, entre ma vie, comment je pouvais couper avant. Je dis, bon, ok, déjà, c'est mercredi après-midi, je ne travaille pas. Là, je ne travaillais pas, mais si je voulais voir une série le soir, mon mail était ouvert et je voyais 80 mails, je ne pouvais pas ne pas aller voir s'il y avait quelque chose d'important, en fait.
Oui, moi, je crois que très rapidement, je me suis retrouvée à plus savoir où était, bah, du coup, mon bureau, ma chambre, dormir dans mon bureau. voilà, c'était très bizarre. Et voilà, ce truc de, bah, voilà, tu es là, tu te dis, bon, bah, je ne sais pas quoi faire. Et le jour où tu te dis, bon, bah, voilà, il est dimanche, 19h, je suis en train d'envoyer un mail du travail. Et là, tu te dis, non, en fait, j'ai dépassé la limite, quoi. Mais vu que, bah, il n'y a rien d'autre à faire, tu le fais, quoi. Tu réponds au mail. Même si, bon, ça pouvait largement attendre le lendemain à 9h parce qu'en fait, il n'y avait rien d'urgent. Et c'est ça, tu sais plus, quoi. Et même moi, avec d'avoir un ordinateur du travail, bon, ben, je ne l'éteignais pas. Enfin, je ne me disais pas, bon, ben, il est 17h, je l'éteins, je m'en fiche, je vais aller sur mon balcon, quoi. Du coup, ouais, non, cette sensation de même d'avoir l'impression que tu peux faire ta réunion de travail en pyjama, quoi. Tu te lèves 5 minutes avant, tu mets le café à côté, t'enfiles un t-shirt plutôt propre et t'espères que t'as pas envie d'aller faire pipi au milieu parce que bah, t'es en pyjama en bas, quoi. Voilà, c'est tout est perdu, quoi. Et avec, des fois, voilà, je vis dans une coloc, du coup, le coloc qui arrive au milieu de ta réunion, qui te demande qu'est-ce qu'on mange à midi, l'autre qui hurle assez fort dans la chambre d'à côté, c'est quand on prend l'apéro. Bon, bah, finalement, t'es grillé et tu sais plus où c'est la limite, quoi. Et tu lui réponds, bah non, il est 2h, je suis en réunion, je prendrai pas l'apéro. Voilà.
Pour moi, la limite, c'était flou aussi parce que justement, j'avais choisi un travail loin de chez moi, comme ça, c'était bien. Le travail et la maison, c'était bien, 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 bien séparé. Je risquais pas non plus de croiser des élèves quand je suis bourrée dans les rues le soir. Donc, c'était bien. Et au final, ben là, du coup, il n'y a plus de limite. Le travail, il est à la maison et du coup, pas pareil. Hein, les réunions en visuel qui marchent pas de toute façon parce que j'ai une mauvaise connexion. Et les réunions en visuel avec les cheveux gras et tout, et puis la clope à la main. Grave. Et puis, ouais, voilà, du coup, je me suis retrouvée comme ça à faire mon truc de suivi des élèves, à les appeler toutes les semaines, là. Et en fait, je me suis retrouvée à les appeler. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais aujourd'hui c'est un jour férié. Voilà, enfin, il y a plus de séparation quoi.
Et du coup, bon, bah maintenant, c'est plus ou moins la reprise. Comme tu disais, Bélène, c'est un peu en mixte. Là, selon vos activités, ça reprend plus ou moins, j'imagine. Comment ça s'est négocié, cette reprise-là? Voilà, pareil, quelle communication il y a eu? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Vous aviez quoi entre les mains? Est-ce que vous avez participé à des décisions? Comment ça a pu être expliqué aux familles, aux enfants? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu voilà, comment ça s'est joué, dans quelle temporalité?
Ben, nous, c'est vrai que sur l'accueil des enfants sur les temps péri et extrascolaires, y a eu des protocoles, puis d'autres protocoles, et puis plein de protocoles, et beaucoup de protocoles. Et après, de se rendre compte hyper rapidement que, ben, suivant comment les mairies avaient le matériel, les moyens nécessaires, en fait, c'était fait un peu à l'appréciation de comment on pouvait mettre en place le protocole. Comment c'était plus ou moins négocié avec les profs, avec les moyens qu'il y avait sur le terrain, mais bien sûr avec toujours ce rapport très hiérarchique de il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'expliquer c'est quoi ton travail, ou il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'expliquer comment on porte un masque, qui n'en porte pas d'ailleurs par ailleurs, hein, c'était quand même que des nouveaux protocoles comme ça petit à petit, et puis des informations compte-gouttes, et du coup plein de choses où tu passes du temps à réfléchir à comment tu vas pouvoir organiser le truc, et après hop là il y a une nouvelle contrainte maintenant, et où du coup c'est que du technique. Et le pédagogique, bon, on s'en fiche, quoi. Le but du jeu, c'est de mettre les enfants en sécurité dans des petits carrés qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs potes ou ils ne peuvent pas jouer avec un ballon. Ça, en fait, c'est jamais pris en compte dans tous ces trucs-là. C'est juste, il faut qu'il y ait une désinfection deux fois par jour. On n'a pas le matériel, du coup, on va mettre de la javel, ça sera super. Enfin, c'est tout des trucs où, en fait, on n'a aucune décision, il y a des règles qui arrivent. Et puis, finalement, ces règles, en fait, on peut pas vraiment les respecter, du coup on fait un peu chacun à sa sauce. Moi, d'avoir vu que dans les écoles il y avait un protocole très très détaillé, très fourni, que les profs respectaient vraiment bien, et de nous voir que le mercredi on en avait un autre qui est arrivé de 6 pages qui était vraiment léger, et en fait on pouvait, nous on avait, le mercredi les enfants ont le droit d'utiliser un ballon, le lundi soir non, c'est pas de bol pour eux quoi. Et du coup, cette incohérence, je trouve, et de jamais réfléchir tous ensemble autour de la table et de se dire, les locaux, ils sont comme ça, nous, on a envisagé ça, il y a X enfants qui reprennent. Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui t'explique il fallait commencer par ci, par là, ce qui pour les trois quarts des personnes qui bossaient, ça changeait pas d'habitude, c'était pas forcément, c'était les produits différents qui étaient utilisés, mais... que quand même, c'était peut-être l'occasion que les profs, les animateurs et les agents d'entretien qui sont jamais tous autour d'une table, discutent réellement enfin autour de la table et de comment ils allaient mettre en place. On mettait quelqu'un de la mairie, un chef, pour dire il faut faire comme ci, comme ça. Une espèce de truc. Et puis les informations, elles arrivent encore au compte-gouttes. Donc il y a toujours l'attente de qu'est-ce qu'on va faire cet été, comment on va accueillir les enfants, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire, comment on va faire... Parce que là, on en arrive à un point où on se dit que les enfants, en fait, il faut qu'ils aient leur temps de loisir. Et on est obligé de leur donner ce temps de loisir parce qu'ils ont passé 2 mois enfermés dans leur famille. Et que ça se passe bien ou pas, en fait, ils ont besoin d'en sortir. Et encore plus si ça se passe pas bien. Mais que si ça se trouve, on sera sur encore des groupes. Et puis, on ne devra pas encore faire ci et pas encore faire ça. Mais... en fait, tant que les directives, elles n'arrivent pas, on ne peut pas envisager quelque chose de cool. Et si on commence à envisager quelque chose d'intéressant, en fait, on est sûr que ça sera une autre directive qui va tomber, quoi. Du coup, en fait, on fait au compte-gouttes et puis on ramasse les pots cassés dans tous les sens. Et à un moment donné, moi, je me dis, je tiendrai pas, quoi. Et je ne suis pas prête à dire à des enfants, venez, inscrivez-vous cet été, on va bien s'amuser. Non, parce que j'aurais des directives que tu vas devoir être enfermé dans un endroit, t'auras pas le droit à des vraies vacances, des vrais temps de loisirs, sous couvert de choses sanitaires, mais qu'en fait, dans ce cas-là, on n'ouvre pas, quoi. Si c'est pour ouvrir, alors sinon on fait un service minimum et on fait juste de la garde, quoi. Mais que ça soit clair et qu'on nous demande pas de faire « c'est l'été, vous allez bien vous amuser, quoi. » Voilà.
La reprise, pour moi, c'est un peu comme les 12 premières semaines. Où moi, tout au contraire, moi, je ne sens pas qu'on reçoit l'information en compte-goutte. On reçoit toute l'information, plusieurs pages, 12 fois par jour. Les protocoles changent. On peut enlever le masque, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, on peut l'enlever. Ah, mais non, on peut plus l'enlever. Mais c'était vraiment, ça a changé. Un week-end long, ça a changé, par exemple, le protocole. Et mardi, tu rentrais à travailler en présentiel et tu avais un autre protocole. Donc, pour moi, c'était la même façon que les 2 premières semaines de confinement, avec trop d'informations et très difficile à gérer. Après, à un autre niveau, bon, bien sûr, je dirais qu'il y a certains établissements qui s'occupent de la question pédagogique et d'autres établissements qui ne s'en occupent pas. Dans le centre de Bavie où je travaille, on travaille chacun sur sa discipline, que c'est très bien. Dans l'autre, on me demande de faire de l'SVT, que je suis complètement nulle en SVT. Et je refuse de faire l'SVT. Et là, on est complètement en conflit avec la direction parce qu'on refuse, les profs des sciences, on refuse de faire une discipline que ce n'est pas la nôtre. Et ils nous disent qu'on n'a pas, on met pas de la volonté, qu'on est conflictuel. Oui, ça veut Et que, qu'on refuse faire des niveaux qu'on n'a pas, que ça implique qu'on devrait préparer encore du travail. Et ça, on trouve que. Et je sais que ça se passe comme ça en plein établissement. Les enseignants font la garderie. Tu vois, avec des groupes que tu ne connais même pas, que tu n'as pas établi un lien pédagogique, il n'y a rien. Et tu les regardes faire les devoirs d'histoire géo, des français. Donc là, c'est aussi, ça implique plein de choses en fait, mais comme on dira, on parlera après des choses qui impliquent au niveau au futur. Et après, ce que j'ai trouvé, c'est que les élèves aussi qui revenaient, c'était pas forcément ceux qui savaient décrocher, donc c'était pas forcément ceux qui n'avaient plus besoin. Et j'ai trouvé aussi en parlant avec des collègues et autour de moi, les parents de l'école de mon fils, il y a beaucoup, justement, c'est les gens qui auraient plus besoin de la cantine, de l'accueil, c'est les gens qui ont plus peur de que ces enfants ils reviennent. Je ne sais pas exactement pourquoi, j'ai des pistes pour imaginer, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Mais donc c'est assez compliqué aussi, ce n'est pas l'argument du ministre en disant « voilà, on va reprendre l'école pour que tout le monde ait l'accès à l'éducation de la même façon », ce n'est pas vrai en fait. Parce que c'est justement ceux qui ont des parents, c'est ceux qui avaient les moyens de suivre les cours à distance, c'est ceux qui sont en présentiel, en grande majorité. Donc ça... Et à un autre niveau de prof, moi j'ai triplé mon boulot. Là j'ai du présentiel, j'essaie de faire le même support pour le présentiel et le distanciel, donc j'ai dû modifier mes supports que j'avais. Donc comme physique-chimie, on ne peut plus faire des manipulations, on ne peut plus faire d'expériences. Donc il faut trouver un moyen d'expliquer la physique-chimie sans... Donc c'est le travail, il est encore dédoublé, même triplé, je dirais.
Ouais, moi, la question que tu posais, soit je trouve que... Enfin, moi, je répondrais que c'est clair qu'on n'a pas été, informé des conditions de reprise. C'est-à-dire que ce n'est pas en t'envoyant une semaine avant un protocole sanitaire de 53 pages qu'en fait, tu vas comprendre ce qui va se passer. En fait, ils ont beau essayer, mais ça ne marche pas comme ça. Après, est-ce qu'on s'est emparé de ça ? Moi, je trouve ça dramatique, mais de tout ce que je capte un peu de ce qui se passe, en tout cas autour de Grenoble, en fait... Personne n'a repris la main, aucun ou presque collectif de travail n'a repris la main sur ce qu'on voulait faire et personne ne s'est vraiment saisi du mois à venir, du fait qu'il y ait des effectifs. Il y avait quand même des choses intéressantes, des effectifs. Alors évidemment, c'est à moyen constant, donc on sait bien que ça ne tiendra pas forcément très longtemps, mais il y a d'autres choses à saisir, mais en fait, il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé parce qu'on est en état de sidération. Je pense que c'est très compliqué quand on essaie de bien faire. On a chacun des problématiques différentes. Mais voilà, on ne s'est pas croisés depuis 3 mois. Et puis moi, il me semble qu'il y a une forme de responsabilité quand même des organisations syndicales qui ont à la fois vachement suivi les ordres de confinement. Enfin, je veux dire, en fait, on aurait pu être un peu plus ambitieux et dire, tiens, et si on allait chercher des moyens de production pour s'organiser autrement et pour se protéger autrement. Mais non, mais ça, pas du tout. Et d'autres un peu plus qui se prétendent de transformation sociale qui vont... en fait parler uniquement comme moyen d'action du droit de retrait, Alors c'est super hein, le droit de retrait, sauf qu'en fait c'est un droit que tu co-gestionnes avec le patron, qui a rien à voir avec le droit de grève, et qui fait que du coup bah, une fois que les cours commencent, t'as rien à proposer en fait, t'as rien à dire. Donc voilà, tout le monde a pris un peu le chemin. Moi, il me semble que c'est très inquiétant, franchement, vu ce qui se passe. Après, heureusement, il se passe d'autres choses dans la rue, il se passe d'autres choses dans des quartiers. Et ça, c'est... Voilà, c'est, je pense à cet endroit-là que c'est intéressant d'être aujourd'hui. Mais on est... voilà, on n'est pas encore, je trouve, en dynamique, dans une dynamique intéressante. Et je voudrais juste dire aussi, quand même, reparler d'un tout petit... Un moment qui est en fait important, c'est le temps qu'on a attendu le discours d'Edouard Philippe la semaine dernière. Il faut savoir qu'il y avait des centaines de milliers d'enfants et d'enseignants qui attendaient de savoir à quelle sauce il allait être mangé le mardi 2 juin. Et que bah, moi, dans mon établissement, en fait, on avait passé 15 jours avec des élèves de 11-12 ans, des 6e, 5e, qui avaient formulé plein de choses sur la vie qu'ils avaient avec leurs parents ou sans leurs parents. Et en fait, qu'on n'a pas pu informer plus précisément que ça du fait qu'en fait, ils allaient être envoyés chez eux pendant 15 jours. Et... Des 4e, 3e qui sont arrivés là. Alors, je ne sais pas, hein, mais il faudra m'expliquer à quel point c'est intéressant de procéder comme ça avec des jeunes. Et puis, bon, pour les enseignants, enfin, pour les équipes éducatives plutôt, qui ont dû comme ça, d'un coup, s'adapter pendant le week-end pour les accueillir. Donc, ce qui a pu être, moi, je trouve intéressant en termes de, au départ, de refaire du groupe, d'être ensemble, d'être sur le terrain, de se retrouver aussi. Parce que, enfin, moi, je ne reconnais pas du tout mon métier. Je suis professeure d'éducation musicale, mais à distance, voilà, je crois que j'ai pas besoin de donner plus d'explications. Mais
tous les profs t'ont haï. Tous les parents t'ont haï.
Bah oui, les parents, j'ai des retours de parents. Ah, vous nous faites chanter. Bah oui, je me suis dit, oh tiens, si les parents allaient chanter avec les enfants. Non mais enfin voilà, je veux dire que du coup là, on rentre, enfin le mois de juin. En fait, ça devient ouais, vraiment, on passe ce cap de garderie, mais faire de la garderie à des 13-14 ans, franchement, enfin, déjà, je pense que l'animation, c'est un métier, en fait. Donc, quand tu es enseignante, c'est pas exactement c'est comme ça que tu peux t'y prendre, quoi. Enfin, moi, je suis un peu larguée, mais avec des ados, des jeunes ados, mais c'est un peu la cata. Donc, ça s'empire, quoi, je trouve, sur ce qui se passe dans les classes. C'était intéressant au départ.
Et alors, du coup, pour moi, pour ce truc de la reprise, personnellement, en tant qu'AED, ça va, j'ai été assez épargnée des directives. J'ai pas reçu 50 mails là-dessus, ça va. Mais par contre, du coup, il y avait un mail qui tournait avec des avenants au règlement intérieur qui étaient proposés pour pouvoir être compatible avec les directives, que j'ai pas trouvé. Et voilà, et du coup, en fait, il y a eu ce truc, on a une direction qui est très 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 procédurière, et du coup, on a eu ce truc de faire en sorte d'être préparé avant le 2 juin. Sachant que du coup, pour les lycées, il y a eu le déconfinement début mai, le 11 mai, et en fait, c'était prévu que les lycées rouvriraient pas avant le 2 juin. Et en fait, entre le 11 mai et le 2 juin, eh ben, nous, les AED, on s'est retrouvés à aller quand même au lycée pour faire des trucs administratifs, en somme. Plus le télétravail à la maison quand même, parce qu'il faut pas déconner, ça continue. Voilà, et du coup ben, pendant tout ce mois là en fait il y avait la préparation des avenants au règlement intérieur, puis bah ben, du coup on n'a pas eu de version définitive avant le week-end, juste le week-end dernier là, en fait, avant la reprise cette semaine. Du coup quand j'ai vu la teneur du règlement intérieur, j'étais là, what, les élèves vont recevoir ça ils ont rempli un questionnaire pour savoir s'ils voulaient revenir ou pas, et après ils vont avoir la réponse si oui ou non ils peuvent revenir, plus l'avenant au règlement intérieur qui prévoit qu'il y a un sens de circulation, qui prévoit qu'ils doivent avoir un masque tout le temps, qui prévoit qu'ils peuvent pas ramasser le crayon d'un camarade à côté qui est tombé par terre et tout, faut pas qu'il y ait la moindre interaction, qu'ils doivent être tout le temps à la même place, dans les mêmes salles, à la même place, au self et tout ça pour manger, qu'ils doivent être à plus d'un mètre les uns des autres dès qu'ils passent le portail, enfin tout des règles de enfin, c'est absurde en fait. À plein de moments quand j'appelais les élèves, les retours que j'avais c'était j'ai hâte de retourner au lycée, revoir mes potes et tout ça, retrouver de la normalité, puis aussi avoir les cours en présentiel avec les profs parce que comme ça ils peuvent poser des questions et tout ça et tout ça. Et là en fait, du coup, ben ouais, ils sont tous mélangés, différentes disciplines ensemble et tout pour avoir des cours basiques, en somme. C'est les cours basiques qui sont assurés. Les ateliers, par exemple, eh ben, en fait, ils peuvent pas faire de la manipulation, pas trop, quoi. Donc, pour les pros, c'est un peu absurde. Et en fait, ils peuvent pas non plus être en interaction les uns avec les autres. Et donc, en fait, ben, les quelques élèves qu'on a sont déprimés, quoi. Il y en a certains, le contexte familial faisait qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Même après le déconfinement, ils n'avaient pas le droit de sortir voir des potes. Et en fait, ils avaient hâte de retourner au lycée pour ça. Et en fait, non, ils ne peuvent pas. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça a beaucoup joué, tout ça, ça a beaucoup joué sur la bonne volonté des gens, en fait. La bonne volonté de l'équipe pédagogique. Je dis équipe pédagogique pour qu'on soit inclus dedans, mais en vrai... Et ça a aidé, walou quoi. Mais ouais, c'est n'importe quoi en fait. On est beaucoup, on n'a pas vraiment de directives claires, ou alors elles sont absurdes. Et à côté de ça, et ben en fait, ça joue beaucoup sur notre bonne volonté, quoi.
Bah là, de toute façon, enfin, de tout ce qu'on a vécu autour de la table sur la reprise, on n'est clairement pas sur une continuité pédagogique. L'école, elle a repris et voilà, ils n'ont jamais osé le dire comme ça, mais seulement pour que les parents puissent retourner au travail. Et là-dessus, le bien-être des enfants, en fait, on s'en fout. Alors, on pense à leur sécurité pour pas qu'ils l'attrapent. Et des fois, même, j'ai l'impression que ce protocole, il a été inventé pour que si jamais il y a un seul cas de Covid, bah, on ferme qu'une seule classe et pas une école entière. Parce que sinon, ça veut dire beaucoup de parents qui ne peuvent plus aller travailler. Et en fait, moi, je trouve ça juste stupide de se dire, bon, bah, en fait, on va rendre les enfants complètement toqués et complètement fous. Mais on préfère ça en fait, parce qu'il faut d'abord relancer l'économie de la France, mais les générations qui arrivent, qui vont tous être complètement zinzin de la distance. Enfin, moi c'est plutôt des primaires, ça fait des enfants qui dès qu'il y en a un autre qui s'approche un peu trop près de lui, il faut que tu t'en ailles. Mais en fait, ils ont acquis ça, et ils l'ont acquis pour combien d'années et pour combien de temps, et quand est-ce qu'on va pouvoir réaccepter qu'un autre il rentre pas dans ton périmètre d'un mètre, quand on se parle, il y en a même qui ont acquis ce truc de il s'est pas bien lavé les mains, allez vas-y je fais de la délation sur l'autre qui s'est mal lavé les mains, enfin on en arrive à des trucs où ben tout le monde devient toqué, du coup on a préféré rendre les enfants toqués mais relancer l'économie, quoi. Et moi ça me rend folle, quoi.
Et du coup là il y a pas mal de choses qui se sont précisées pendant le confinement, exacerbées, testées et tout ça, qui sont un peu dans les tuyaux des projets gouvernementaux depuis un petit moment, hein. Le télétravail, ça en fait partie. La virtualisation de plein de choses, hein, la distanciation, l'atomisation des travailleurs-travailleuses pour empêcher de l'organisation, ce qui était un peu compliqué à faire, je pense, dans le service public, dans l'éducation notamment, et que là, bah, c'est un bon moyen de faire que les gens, en effet, se rencontrent moins et que ce soit plus compliqué de s'organiser et de se connaître et de connaître les difficultés qu'on rencontre sur son lieu de travail. Bon. Donc là, il y a plein de choses comme ça qui... Donc c'est une inquiétude des syndicats aussi que les choses se maintiennent, comme le droit au travail qui est attaqué et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez de ça, vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Que vous voyez des tendances qui pourraient être soi-disant contextuelles, qui deviendraient systématiques ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, c'est clair que je crois que ça ressemble un peu à la stratégie du choc là de Naomi Klein, le fait de se saisir de, enfin que les gens qui nous gouvernent, ils se saisissent de moments de sidération pour avancer dans leurs réformes. Ça se sent d'ailleurs, nous donc quand même dans la période. En tout cas à l'école, ils nous laissent assez libres de mettre en place un peu ce qu'on veut, de tester des choses, mais. Enfin, je veux dire, avec un mec comme Blanquer comme ministre, je sais bien qu'il y a une embrouille, quoi. Mais bon, ça a pas l'air de choquer plus que ça. Moi, je vois deux choses. Enfin, j'ai deux inquiétudes. Il y a d'abord le dispositif 2S2C, la santé, sport, culture et civisme, qui est pour, je crois, au départ accueillir les élèves qui seraient en trop grand nombre par rapport à l'accueil possible compte tenu du protocole sanitaire. Donc, les accueillir sur le temps de l'école sur différents projets. Pour moi, ça c'est introduire l'idée de faire sortir donc le PS, l'art plastique, l'éducation musicale des enseignements, et du coup créer une autre école, quoi, hein, un autre système avec du coup ce qu'ils disent, c'est aussi des animateurs qui se chargeront de ça, donc c'est pas non plus les mêmes, je pense exactement les mêmes entrées, le même projet. Et moi, alors après c'est un peu peut-être un peu plus personnel, mais la question du télétravail, moi je redoute qu'en fait, ça, il y a pas mal de collègues, et que finalement, ben, c'est vrai, hein, quand t'es dans des effectifs qui sont intenables et qu'on va te proposer peut-être de faire, je sais pas, 5 heures sur les 18 à distance, ben en fait, ça va prendre, ça va marcher, puisque ce qu'ils risquent de faire, c'est que ce soit sur la base du volontariat et que du coup la question de faire groupe, enfin voilà, faire société un peu ensemble avec les élèves quoi, enfin avec les enfants, et ben ça va se penser différemment, mais voilà, moi ça me fait un peu peur.
Oui, pour ajouter autre chose qui ça me fait peur moi par rapport aux conséquences de cette expérience, c'est que justement comme je disais, il y a certains établissements où on trouve qu'on est échangeable en fait. Et ça on a déjà vu ça ailleurs. J'ai déjà vu ça dans différents travaux que j'ai eus, qu'un plombier il peut faire l'électricité. De toute façon, il travaille avec ses mains, non? Bon, je peux faire le SVT, comme peut-être du français ou de la musique ou des arts. Trouver en fait que c'est comme intérioriser qu'un prof de physique-chimie peut faire le SVT et au contraire, un prof de SVT il peut faire la physique-chimie, c'est des sciences. Et je trouve ça très dangereux en fait, qu'on perd la notion de nos métiers en fait, et qu'on nous échange tranquillement comme ça. Après, j'ai beaucoup discuté avec des collègues qui travaillent à l'université, et eux, ils n'ont pas de date de rentrée, par exemple. Ils se voient rentrer en télétravail, à distanciel. Donc, c'est très dangereux, parce que ça fait quelques années que ça discute d'arrêter de faire des cours en présentiel. Et là, d'un coup, ça, le contexte, il fait qu'on peut démarrer comme ça, et on fera des cours de toute façon, à la fac, c'est des grands, ils se gèrent tout seuls. Donc pourquoi ils n'ont pas besoin des parents pour les garder et que les parents puissent se libérer pour aller travailler. Donc il y en a des facs de Grenoble et ailleurs, ils n'ont pas encore des dates de rentrée pour commencer à travailler. Parce que le protocole, les cours, voilà, on peut le faire en distanciel. Donc ça, je trouve que c'est très, très, très dangereux.
Moi, je rejoins ce que disait Charlotte sur beaucoup de personnes, je pense, ont apprécié le télétravail. On se sont dit, finalement, après, ça, c'est une conséquence aussi de la société hyper individualiste dans laquelle on vit. Et il n'y a plus... Il y a plus de sens en fait à travailler en collectif, puisque on s'en sort très bien tout seul finalement. Les profs, vous êtes seuls en face d'une classe, donc finalement autant le faire de chez soi, ça évite des déplacements. Après j'imagine, enfin moi en tout cas, si demain on me dit que je fais que du télétravail, alors ça veut dire que je change de métier quand même, parce que j'ai encore la chance de travailler en équipe, mais moi, je pense que j'aurais plus facilement du burn-out qu'en travaillant en équipe, quoi. Et parce que t'es seule, t'as plus aucun moyen. Demain, tu t'embrouilles avec ton ou ta chef. En fait, t'as personne avec qui d'autre en parler. Ou alors, sinon, c'est sur WhatsApp, mais c'est trop long d'expliquer toute la situation et tout ça. Et du coup, ça va faire encore plus d'individualisme. Et moi, ça, c'est sûr que je trouve ça aberrant. Et on voyait Google, les grandes entreprises qui commençaient à dire « Ah non, mais finalement, on va laisser tout le monde en télétravail. » ça va leur faire des économies. Ils n'ont plus besoin de louer de grands bureaux, quoi. Tu donnes une petite prime et un ordinateur à ton personnel, et puis c'est réglé, finalement. Tu as moins de dépenses à faire et du coup, ça rentre encore plus dans la société capitaliste dans laquelle on vit. Et voilà. Du coup, je trouve que si vous laissez les profs en distance avec tous les outils qu'ils ont développés pendant le confinement, en fait, il y aura encore plus d'enfants qui vont lâcher. C'est aussi après ça c'est encore autre chose, mais c'est le rapport aux écrans aussi là chez les enfants qui commence à être aussi une autre problématique qui était plus restreinte avant, quoi.
Du coup, pour moi, le télétravail, j'étais en contact avec les élèves et du coup, je voyais bien que en fait, c'était très disparate selon les moyens qu'ils avaient, la possibilité d'avoir un ordi, la possibilité d'avoir une connexion, aussi le cadre familial aussi qui faisait que des fois, en fait, ils sont dans un cadre où les parents n'aident pas du tout. C'est plutôt eux, l'adulte de la maison, ou alors, simplement, ils sont pas des enfants de gens instruits, donc en fait, ils sont livrés à eux-mêmes, et ça va exacerber ça, bien sûr. Et bien, il y a aussi l'aspect, le boulot d'AED, moi, comment je l'envisage, c'est une espèce de lien entre l'institution, un tampon entre l'institution et les élèves. Et en fait, en télétravail, les AED, en fait, ils ne vont plus servir à rien, quoi. Il n'y en aura peut-être même plus, quoi, au final. Parce qu'ils sont juste responsables, les élèves vont juste être responsables de même, et puis c'est tout, quoi. Ils ont les cours en visuel, et puis walou, quoi. Ils se débrouillent.
Oui, et moi, ce que je voulais rajouter aussi sur la polyvalence, c'est sous couvert d'état sanitaire, de crise et tout ça, on a demandé à plein de gens de passer du métier d'animateur périscolaire à livreur de repas dans les EHPAD. Parce que si tu veux un salaire, quand même, il faudrait que tu fasses ça. Que moi, je sais que cet été, ils nous ont dit, si vous avez des restrictions, vous aurez moins d'enfants. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est aller faire de l'animation dans les quartiers, de l'animation avec les familles. Tu te dis, mais c'est pas le même métier. Moi, je sais pas faire ça. Et moi, je sais accueillir des enfants, mais pas des familles. Je sais pas. Eh ben non, mais on s'adapte, quoi. Puis, voyons, t'es volontaire, quoi. C'est ça. Et du coup, ce côté de volontariat. À un moment donné, je veux bien aider je veux bien mettre de l'énergie pour que les choses se passent bien, mais je suis pas tout le temps volontaire. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, et c'est pas parce que c'est la crise sanitaire que je vais mettre à aller faire l'animation en EHPAD ou dans un quartier ou je sais pas quoi. C'est d'autres métiers, quoi. Mais c'est comme cet été, il y a un dispositif, les vacances apprenantes, où du coup ça serait à moitié des animateurs, à moitié des profs qui, pendant l'été, accueilleraient les enfants qui auraient décroché. Et voilà, puis on nous a dit ça. Alors on nous a dit, vous allez aller dans des écoles et puis vous serez avec des profs. Mais moi, je ne suis pas prof et je connais les licornes. Voilà, je peux leur parler des licornes, mais je crois que ça ne rentre pas dans le programme scolaire. Et non, en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter de dire, on va tout faire pour aller sauver les enfants. Non, on ne sauvera pas les enfants et on ne va pas demander à des profs de travailler encore un mois en juillet alors que ils ont travaillé 100 fois plus pendant le confinement, quoi. Du coup, le volontariat et la crise sanitaire, c'est des mots que j'aime plus là.
Pour revenir justement sur ce que tu dis, il y a ce discours là on est en crise sanitaire, il faut être volontaire, il faut être solidaire, il faut être agile. Que c'est des mots que l'on entend depuis un moment des dirigeants, en fait. Et là, avec cette crise, il faut si tu le fais pas, tu n'es pas volontaire pour faire ci, tu n'es pas volontaire pour faire ça, en fait. Et on nous culpabilise, en plus, de qu'on ne collabore pas pour que la vie elle revienne normale, pour que les gens ils arrêtent de mourir, comme si c'était notre responsabilité que les gens ils meurent. Ah, t'es pas volontaire pour faire ci, t'es pas... Ah, c'est des conditions exceptionnelles, là, il faut être volontaire, il faut être agile, il faut... être flexible, on est tous solidaires. Et je trouve qu'on cache beaucoup de choses derrière ces jolis mots, de cette solidarité. Bien sûr, je ne veux pas dire que je n'ai pas applaudi les soignants, parce que moi, je trouvais qu'il fallait aussi les caissières. Il y avait plein de gens, en fait, qui étaient en première ligne. Et là, avec cette bienveillance collective, on a caché beaucoup d'injustices aussi. On demande beaucoup d'efforts et on s'en passe du code de travail en beaucoup de cas, en fait.
Moi, je voulais juste revenir sur une chose que disait Henriette, sur la question du fait que les élèves, selon le système dans lequel on va aller, les élèves ils vont décrocher et ça sous-entendait que c'était un problème. Mais en fait, je pense que on avance vers un système de plus en plus barbare. Et en fait, est-ce que la question, c'est encore celle de l'équité et d'essayer de faire avancer tout le monde? Moi, je pense que vu les réformes du ministre et vu la manière dont il a traité la question du décrochage scolaire, là, en disant « ouais, c'est 4% » et puis c'est machin, en fait, il n'a aucune idée des chiffres. Les chiffres, ce n'est pas du tout cela. C'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus dramatique. En fait, ce n'est plus une problématique. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs dans lesquels il va falloir vraiment s'emparer et rediscuter, quoi. Quel modèle on veut pour notre société. Et c'est pareil pour le monde du travail, parce que, en fait, aussi, ce qu'on vit là, ici, moi, j'ai l'impression que le service public, il est encore un peu épargné, quoi, en termes de droit du travail, mais c'est clair, les enseignants à qui on demande, et comme par hasard on va demander à des contractuels de changer de discipline, alors que statutairement en fait c'est possible maintenant, c'est quasiment possible, il reste plus que avec la réforme de la fonction publique ça pourra se faire plus facilement, mais c'est la manière dont c'est demandé, c'est sur quelle base, et puis après c'est aussi la question justement des AED, moi de ce que j'en comprends, de ce que j'ai vu. C'était l'illustration de quelque chose d'affreux, c'est-à-dire par exemple la reprise, les internats, des personnes qui étaient en internat, qui avaient signé un contrat de travail avec des horaires et machin. Vous voyez leur conditions de travail, c'est-à-dire complètement changé, puisqu'il n'y a pas d'internat, donc tu vas venir bosser la journée. En fait, j'avais une vie, je m'étais organisée autrement, et le truc, ça peut être discuté, mais en fait, c'est imposé, et voilà. Donc, il y a un durcissement, et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on essaie de regagner du terrain, et rapidement, parce qu'en face, ça avance, quoi.
Une petite précision aussi, peut-être, de ce que j'ai pu constater par rapport au télétravail aussi, c'est que, du coup, on a déjà bien insisté dessus, les conditions, le confort informatique pour tout le monde n'est pas le même, mais la formation informatique aussi pour tout le monde n'est pas la même. Et en fait, du coup, ce que j'ai pu constater, parce que j'avais une élève qui n'avait pas d'ordinateur, et du coup, j'ai essayé de lui imprimer les cours pour qu'elle les ait et qu'elle puisse suivre quand même. Et ben, en fait, je me suis... enfin, on voit bien en fait aussi que, par exemple, les profs sont pas tous au même niveau informatiquement. Il y en a, c'est que leur cours, c'était photocopier le bouquin et envoyer ça de temps en temps, quoi. Juste scanner le bouquin et envoyer ça de temps en temps. Il y en a d'autres, ils faisaient des documents PDF. Les documents PDF, c'est pas modifiable. Et en fait, selon l'installation que t'as d'ordinateur, bah, tu peux pas forcément l'ouvrir dans un autre logiciel pour arriver à le modifier. Enfin, bref, que des cafouillages. Et en fait, j'ai l'impression que aussi beaucoup, ce qui va changer les métiers avec le fait de venir au tout télétravail, c'est que va falloir être plus des informaticiens que des humains en lien avec d'autres humains. Qui pour leur enseigner des choses.
Bah, du coup, on va arriver à la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes d'être venues nous parler de tout ça, parce que c'est des sujets qu'on évoque beaucoup, mais qu'on n'a pas forcément accès à avoir des infos un peu de l'intérieur, finalement, de comment ça se passe vraiment. Et bah, je vais vous laisser le mot de la fin. S'il y a des choses que vous voulez rajouter, ou qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour la suite, qu'est-ce que vous aimeriez voir se passer dans les prochains mois pour que tout ce qu'on a imaginé ou qu'on peut imaginer de pire n'arrive pas.
Ben moi, je rêve d'une manif d'enfants à plus de 10 et qui refusent de se laver les mains et qui ne se mettent pas à un mètre de distance et qui me disent « je veux faire un grand jeu et on va tous bien s'amuser ». Et là, je les écouterai.
Bah moi j'aimerais qu'on reprenne la main, qu'on prenne la rue, qu'on se revoie, qu'on dépasse les limites de 10, qu'on soit un peu plus ambitieux que ce qu'on est en train de faire et la manière dont on est en train de se laisser manger. Alors du coup je veux bien dire qu'il y a quand même une date de mobilisation dans la santé. Il y a un rendez-vous à 14h devant le CHU mardi 16 juin. Ça c'est l'initiative de soignants. Alors je sais pas si on aura avancé sur le droit de se mettre en grève, enfin si ce sera un mot d'ordre un peu plus large que juste la santé, mais voilà, il faut qu'on dépasse l'état d'urgence sanitaire, là, tout ce qui nous est demandé, et qu'effectivement on fasse gaffe à comment à se protéger les uns les autres, mais voilà, la protection elle est pas que sanitaire, elle est aussi sociale, et si on les écoute trop, je crois qu'on va tuer d'autres choses chez nous, quoi.
Quand je vois là la reprise, comment ça se passe et les comportements de la hiérarchie avec nous et avec les élèves, enfin avec le collègue avec qui j'ai travaillé cette semaine, ben le règlement, ben on s'asseyait dessus, quoi. Ouais, ben ouais, j'espère qu'on va sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle on est là. Et je suis contente parce que du coup j'ai eu l'occasion d'assister à au moins une manif depuis le déconfinement et en fait elles sont chambées. Il se passe des trucs trop bien et bah ouais, sortir de cette torpeur et puis surtout arrêter d'avoir peur, parce que pour moi les choses ont pris une ampleur qui est démesurée par rapport à la crise que ça a été, même si je dis pas que c'est pas terrible qu'il y ait des gens qui soient morts, mais ouais, c'est démesuré, quoi. Et en fait, il va falloir qu'on arrête de se laisser déposséder de ce genre de situation et plutôt qu'on s'en empare ensemble pour faire les choses plus intelligemment, quoi. Parce que qu'est-ce que ça va changer de porter un masque dans la rue, quoi. Faut arrêter, quoi.
En ce qui me concerne, je pense que j'ai trop lu de science-fiction quand j'étais jeune. Donc, cette contexte, je l'avais lu et relu et relu. Et les premiers jours de confinement, c'est que ça me faisait plus peur, c'est justement qu'on nous domine par la peur, en fait. On a peur de l'autre, on a peur de se croiser dans la rue. J'arrive pas encore à avoir une vision positive de tout ça. Simplement, comme ils l'ont dit déjà, les autres filles du plateau, essayer de sortir de cette peur et essayer de retrouver l'ensemble. Parce que je pense que, qu'en face, ils sont bien avancés, en fait, pour nous diviser encore plus et pour avoir peur de l'autre. Et voilà, mais sincèrement, moi, je sens, en fait, qu'on vit dans un bouquin de science-fiction, en fait, écrit dans les années 50, en plus. Donc, c'est, on met même pas... C'est même pas très, très, très nouveau en fait, c'était déjà pensé tout ça. Donc ça, ça me fait beaucoup de peur et j'arrive pas encore à me positionner d'une façon très positive par rapport à la suite en fait. Je peur pas de l'autre, je peur de des conséquences qu'ils vont tirer en face pour nous atomiser encore plus de ce qu'on est déjà.
Bon bah voilà, on finit pas sur une note très utopiste, on est plutôt dans la dystopie, mais... C'est aussi une bonne source d'inspiration. Et ben voilà, merci à nouveau à toutes. On se quitte pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain, toujours sur Radio Campus 90.8, donc de 13h à 14h pour une nouvelle émission de Micro-Ondes. Et bon samedi et au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Micro-Ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur, pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.